J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhirs. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu mille fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter, en regagnant son fauteuil par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon.
Jean-François Louette, est-ce un hommage, ce passage qui est peut-être la plus belle page des mots, la plus belle page de son plus beau livre, est-ce un hommage au livre ou est-ce au contraire une façon de les présenter comme autant de sarcophages et en un sens de les répudier?
C'est une page ambivalente, ambivalente à la fois vis-à-vis de la culture, hein. Ce sont à la fois des livres magiques qui enferment un mystère, une révélation, et en même temps ce sont des livres tombeaux. Et de même, il y a ambivalence à l'égard du grand-père. On peut lire cette page, et c'est une page d'admiration. Hein. Il y a quelque chose de fascinant dans la dextérité du grand-père, et puis en même temps, quelque chose de mortifère dans cet enfermement dans la bibliothèque. Mais il faut laisser tomber aucun des deux côtés. Quand les mots ont paru, il s'est trouvé un publiciste pour dire quand même « Sartre est tellement acide avec sa famille, est tellement irrespectueux qu'il a employé l'expression d'autobiographie voyou ». Et d'ailleurs, il y a eu une réponse de Raymond Jean dans les Cahiers du Sud. Or, c'est à mon avis mal lire le livre. Il y a aussi une vraie tendresse qui s'exprime pour le grand-père et un véritable, en effet, hommage. En termes lacaniens, le grand-père a joué son rôle pleinement de père, c'est-à-dire qu'il a transmis l'ordre symbolique, hein, l'ordre du langage.
Mais alors, le grand-père a transmis l'ordre symbolique, l'ordre du langage. Il y a une tendresse véritable dans ce livre, mais on va rester quand même un instant sur cette ambivalence, parce que la tendresse est constamment matinée d'ironie, en permanence, dans les mots, de sorte qu'on ne sait pas véritablement quelle voix s'exprime chez cet homme qui écrit, encore une fois, ce texte où il fait le récit de son enfance bourgeoise, alors qu'à côté de ça, il écrit « Les communistes et la paix ».
Oui, il y a deux voix et il y a deux pulsions et il y a deux désirs. Hein. Il y a le désir qui est aussi un plaisir de retrouver son enfance et de retrouver des affects, parce que c'est un livre, je crois que c'est Colette Audry, hein, qui était très liée à Sartre et Beauvoir, qui disait que le livre était troué par une sensibilité brûlante. C'était l'expression qu'elle employait, troué. Et puis d'un autre côté, il y a des moments de...
Ça, c'est un hommage à l'être et le néant.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Et il y a des moments où s'exprime en revanche une verve corrosive très, très, très frappante. Mais il faut bien voir que les deux pôles, le pôle tendre et le pôle acide, jouent l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, et ils contribuent à créer cette extrême tension qui est l'une des grandes qualités du livre.
Sartre doit à son grand-père d'avoir commencé sa vie comme il la finira. C'est lui qui le dit, au milieu des livres, hein, au milieu de ces allées de menhirs. Il doit également à son grand-père d'avoir un accès privilégié, peut-être le premier accès privilégié à la réalité, sortir du rêve d'enfant, de celui qui se prend pour D'Artagnan, Pardaillan, qui veut rendre l'Alsace à la France, etc. La perception héroïque qu'il se fait de lui-même, il accède à la réalité par le biais de la découverte de sa laideur. Et c'est à son grand-père qu'il doit cette découverte dans une autre page fameuse des mots.
Mon grand-père s'agaçait de ma longue chevelure. « C'est un garçon, disait-il à ma mère. Tu vas en faire une fille. Je ne veux pas que mon petit-fils devienne une poule mouillée. » Anne-Marie tenait bon. Elle eût aimé, je pense, que je fusse une fille pour de vrai. Avec quel bonheur elle eût comblé de bienfaits sa triste enfance ressuscitée. Le ciel ne l'ayant pas exaucée, elle s'arrangea. J'aurai le sexe des anges, indéterminé mais féminin sur les bords. Tendre, elle m'apprit la tendresse. Ma solitude fit le reste et m'écarta des jeux violents. Un jour, j'avais 7 ans, mon grand-père n'y tint plus. Il me prit par la main, annonçant qu'il m'emmenait en promenade. Mais à peine avions-nous tourné le coin de la rue, il me poussa chez le coiffeur en me disant « Nous allons faire une surprise à ta mère ». J'adorais les surprises. Il y en avait tout le temps chez nous. Cachotterie amusée ou vertueuse, cadeaux inattendus, révélations théâtrales suivies d'embrassements. C'était le ton de notre vie. Bref, je revins glorieux et tondu. Il y eut des cris, mais pas d'embrassements. Et ma mère s'enferma dans sa chambre pour pleurer. On avait troqué sa fillette contre un garçonnet. Il y avait pis. Tant qu'elle voltigeait autour de mes oreilles, mes belles anglaises lui avaient permis de refuser l'évidence de ma laideur. Déjà, pourtant, mon œil droit entrait dans le crépuscule. Il fallait qu'elle s'avoue la vérité. Mon grand-père semblait lui-même tout interdit. On lui avait confié sa petite merveille, il avait rendu un crapaud. C'était saper à la base ses futurs émerveillements. Mamie le regardait, amusée. Elle dit simplement « Karl n'est pas fier, il fait le dos rond ». Anne-Marie eut la bonté de me cacher la cause de son chagrin. Je ne l'appris qu'à 12 ans. Brutalement. Mais je me sentais mal dans ma peau. Les amis de ma famille me jetaient des regards soucieux ou perplexes que je surprenais souvent. Mon public devenait de jour en jour plus difficile. Il fallut me dépenser. J'appuyai mes effets et j'en vins à jouer faux. Je connus les affres d'une actrice vieillissante. J'appris que d'autres pouvaient plaire.
Chez Max, coiffeur pour homme. Ou un jour j'entrais comme... par hasard, me faire raser la couenne et rafraîchir les douilles. Je tombe sur cette chienne champouineuse qui aussitôt m'aveugle par sa beauté païenne et ses mains savonneuses. Elle se penche et voilà ses doudounes comme deux rahat loukoum à la rose qui rebondissent sur ma nuque boum boum. Je pense à la fille du calife de la 1002e nuit, et sans la pointe d'un canif me percer le cœur, je lui dis petite, je te sors ce soir, ok?
Voilà un hommage de la laideur à la laideur, hein, Gainsbourg, hein, qui semble presque parler de Sartre et décrire l'anecdote fondamentale où Sartre, perdant ses anglaises, découvre par là même ses oreilles et en est tout surpris. Plus exactement, c'est les autres qui sont surpris, mais ils sont tellement surpris que Sartre a la conviction immédiate de sa propre laideur. Est-ce qu'avec la révélation de sa laideur, Sartre n'est pas anti-sartrien, au sens où la laideur n'est pas seulement dans le regard de celui qui le contemple, à la façon dont le juif serait une création de l'antisémite, d'un point de vue sartrien? Non, Sartre se vivait comme laid, constatait qu'il était laid en lui-même et par conséquent que sa laideur n'était pas seulement l'effet d'un regard réifiant ou d'un jugement collectif. Est-ce qu'il n'y a pas là, ici, une double dimension de Sartre qui est à la fois la fabrication par le regard d'autrui, la réaction de sa mère, la détresse, les larmes qui témoignent d'une laideur, une réaction si forte qu'au fond, il finit par prendre cette laideur pour un fait en soi, Jean-François Louette?
Oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui relève de la situation, hein. Quand on se souvient des analyses de l'être et le néant, le corps appartient à la situation, et le corps a quelque chose d'insurpassable. Ça a quelque chose d'insurpassable, mais ça a quelque chose de surpassable aussi, c'est-à-dire qu'on peut être le lait triste qui se condamne lui-même et va rasant les murs, ou le lait qui essaie de faire quelque chose de sa laideur, de dépasser sa laideur. C'est peut-être ce qu'a fait Gainsbourg, je ne sais pas, c'est en tout cas ce qu'a fait clairement Sartre, ne serait-ce qu'en se donnant un autre corps, un corps de gloire, comme il le dit dans les mots à travers l'écriture. Cette page des mots est très très brillante, parce qu'elle mêle un côté conte de fées, hein, le crapaud qui naît à partir du jeune prince.
C'est le petit prince qui devient crapaud.
Exactement, le crapaud qui naît à partir du jeune prince. Un côté rite de passage, c'est aussi quand même un processus de virilité civilisation qui est conduit par le grand-père, et puis aussi une espèce de dérision de la psychanalyse, parce que l'épisode du coiffeur, c'est aussi un des topoï que Sartre repère chez Freud, c'est-à-dire le topos de la castration, les rêves de coiffeur dans l'interprétation des rêves. Donc il y a une espèce de volonté chez Sartre de se créer un corps différent grâce à l'écriture. Il sait bien que c'est pas entièrement vrai, mais en même temps, ça existe. Pour nous, maintenant que Sartre est mort, le corps de Sartre, il est dans ses livres.
Comme Sartre lui-même le prédisait dans les mots, mais il le disait en se moquant de lui-même. Il décrit dans les mots ses rêves d'enfant. Il se décrit 25 000 pages ou 15 000 pages, je ne sais plus, autant de volumes, je me carre dans ma bibliothèque. Tiens, il se décrit lui-même devenant livre. Oui, on va l'entendre tout à l'heure, ça d'ailleurs. Or, c'est exactement ce qui lui est arrivé dans une description qui est à la fois railleuse et ironique, mais prémonitoire.
Oui, ça m'a toujours fait penser à ce très beau tableau d'Artim Boldo qui s'intitule Le bibliothécaire. Enfin, je ne sais pas si un tableau s'intitule, mais disons que c'est son nom. Le bibliothécaire, où on voit un homme fait de livres, tout entier fait de livres. Ce n'est pas donc à partir de fruits ou comme dans d'autres tableaux d'Artim Boldo. Voilà, un homme livre, un homme fait de textes.
L'homme livre en question a été trouvé beau une seule fois dans sa vie, à son insu, non pas par sa mère, mais par son père. Son père qui est mort donc quand il avait 15 mois, Jean-Baptiste Sartre. Voici néanmoins ce qu'il disait du petit Paul, comme il l'appelait, dont il était tout heureux de la naissance. C'est un texte que j'ai retrouvé dans la biographie d'Annie Cohen-Solal. Écoutez.
Mon petit Paul est un enfant délicieux. Il s'amuse de tout, remue perpétuellement, s'agite, crie à tue-tête, rit aux éclats, mais jamais ne pleure. Son regard est curieux, intelligent et très doux. Installé à côté de moi, dans son fauteuil, tout près de la fenêtre, il regarde la rue, ce qu'il aime beaucoup, et s'amuse avec un chapelet que je ramasse fréquemment. Il est très avancé pour son âge. Moi, je n'y connais rien, mais je trouve mon petit très beau. Je ne puis dire que je suis revenu en excellente santé. Ces 6 mois d'été m'ont été très durs à tout point de vue. Mais je n'ai besoin que de repos et de soins, et surtout, j'ai besoin d'être chez moi.
Bientôt je reviendrai chez moi, dit Jean-Baptiste Sartre, juste avant de mourir.
Je n'écrirai pas pour le plaisir d'écrire, mais pour tailler ce corps de gloire dans les mots. À la considérer du haut de ma tombe, ma naissance m'a paru comme un mal nécessaire, comme une incarnation tout à fait provisoire qui préparait ma transfiguration. Pour renaître, il fallait écrire, pour écrire, il fallait un cerveau, des yeux, des bras. Le travail terminé, ses organes se résorberaient d'eux-mêmes. Aux environs de 1955, une larve éclaterait, 25 papillons in folio s'en échapperaient, battant de toutes leurs pages pour s'aller poser sur un rayon de la Bibliothèque nationale. Ces papillons ne seraient autres que moi. Moi, 25 tomes, 18 000 pages de texte, 300 gravures dont le portrait de l'auteur. Mes os sont de cuir et de carton. Ma chair parcheminée sans la colle et le champignon. À travers 60 kilos de papier, je me carre tout à l'aise. Je renais, je deviens enfin tout un homme, pensant, parlant, chantant, tonitruant, qui s'affirme avec l'inertie péremptoire de la matière. On me prend, on m'ouvre, on m'étale sur la table, on me lisse du plat de la main et parfois on me fait craquer. Je me laisse faire et puis tout à coup je fulgure, j'éblouis, je m'impose à distance. Mes pouvoirs traversent l'espace et le temps, foudroient les méchants, protègent les bons. Nul ne peut m'oublier ni me passer sous silence. Je suis un grand fétiche maniable et terrible. Ma conscience est en miettes, tant mieux. D'autres consciences m'ont pris en charge. On me lit. Je saute aux yeux. On me parle. Je suis dans toutes les bouches. Langue universelle et singulière. Dans des millions de regards, je me fais curiosité prospective. Pour celui qui sait m'aimer, je suis son inquiétude la plus intime. Mais s'il veut me toucher, je m'efface et disparais. Je n'existe plus nulle part. Je suis. Enfin. Je suis partout. Parasite de l'humanité, mes bienfaits la rongent et l'obligent sans cesse à ressusciter mon absence.